Les lectures de Lisel. Je voudrais vous parler aujourd'hui de toute l'œuvre d'Agnès de Sarthe, pas d'un titre en particulier. La plupart de ses textes adultes sont dans la collection Figures libres aux éditions de l'Olivier. Et ses romans jeunesse se trouvent souvent à l'école des loisirs, mais pas que. Dans son travail, on trouve toujours finesse, délicatesse et un brin d'étrangeté. L'écriture d'Agnès de Sarthe touche les neurones par la voix sensible. Lorsqu'on referme son roman Le Remplaçant, par exemple, on se sent touché mais aussi plus attentif, peut-être plus aiguisé pour observer les petites magies du quotidien. Pas de sensiblerie pourtant dans son style, pas d'interprétation de quelconque signe, seulement du récit. On peut même avoir la sensation que ça va trop vite parfois. Son roman Une partie de chasse, par exemple, compte 152 pages. Son autre, Le Remplaçant, seulement 86 pages. Mais ce n'est pas de l'excès de raccourci, c'est de la mesure, de l'affûtage de style. C'est n'en dire jamais plus que nécessaire ou voulu. Dans Une partie de chasse, par exemple, on se fait balader tout le temps et on n'arrive pas forcément là où on pensait aller. Agnès de Sarthe est aussi traductrice de l'anglais. Elle parle de cette folie de l'écriture que peut être la traduction dans un essai-récit excellent qui s'intitule « Comment j'ai appris à lire ». Souvent primée, écrivain pour la jeunesse comme pour la vieillesse, mais ça c'est un autre sujet, elle mérite qu'on lise toute son œuvre. Je vous lis aujourd'hui un extrait du « Remplaçant » d'Agnès de Sarthe. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi mon grand-père avait plusieurs prénoms. Le plus courant était Bouzia, qui me mettait mal à l'aise parce qu'il me faisait penser à Bouze. D'ailleurs, la plupart du temps, c'était même ainsi, le souvenir m'en revient subitement qu'on l'appelait Bouze, que je préfère orthographier B-O-U-Z. Je trouvais ça bizarre de donner à quelqu'un le nom d'une crotte de vache et encore plus bizarre d'être la seule à m'en inquiéter. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que ce sobriquet était en réalité le diminutif de Boris. Mon grand-père s'appelait donc Boris. Mais il s'appelait aussi Barouche. Barouche, comme dans la prière, pensais-je à 10 ans, alors que j'assistais au cours d'hébreu que prenait mon frère en prévision de sa bar mitzvah. Barouche, comme dans Barouche Atta Adonai, béni sois-tu éternel notre Dieu. Mon grand-père s'appelait donc Béni, ou pourquoi pas Benoît. Benoît, qui n'est pas si loin de Benet. Ainsi allaient mes rêveries, autour du millefeuille onomastique. Mais peut-être ferais-je mieux de commencer par expliquer que mon grand-père n'est pas mon grand-père. Le sang ne nous lie pas. Bouze, Boris, Barouche n'est pas le père de ma mère. Le père de ma mère a été tué à Auschwitz en 1942. B.B.B., appelons-le ainsi pour faire plus court, est l'homme avec qui ma grand-mère, la vraie, la mère de ma mère, a refait sa vie, si l'on peut dire. Avant la guerre, Triple B et sa femme avaient été des amis de ma grand-mère et de son époux. Ils faisaient partie de la même bande. Après la guerre, l'épouse de l'un et le mari de l'autre ayant disparu dans les camps d'extermination, le veuf et la veuve ont décidé de vivre ensemble, sans se marier. Parce que mariés, ils l'avaient déjà été, et ne se sentaient peut-être pas prêts à recommencer. Se précipiter à la mairie aurait constitué à leurs yeux un genre de trahison envers les disparus. Je les imagine, hésitants et dubitatifs, pas de déclaration d'amour ardente, pas de réparation. Une vie nouvelle, certes, mais bancale, faite de 1000 accommodements. Triple B avait le bon goût de n'être pas à la hauteur du disparu. Ni aussi beau, ni aussi intelligent, ni aussi poétique que le mort qu'il remplaçait. On avait perdu au change, et c'était parfait ainsi, moins culpabilisant. La médiocrité du nouveau permettait d'honorer convenablement la mémoire de l'ancien. Toutefois, ce que je percevais enfant n'était pas tant cette comparaison défavorable que la spécificité du couple que formaient mes grands-parents. Leur union n'était pas fondée sur l'amour ou le désir, mais sur un sentiment plus doux et peut-être plus durable, l'amitié. Ainsi, parce que la passion ne menaçait pas le ménage, parce que l'enjeu était moindre, parce que chacun d'eux acceptait ce compromis sans se leurrer sur sa nature, il régnait dans leur foyer une atmosphère qui me convenait et dont, même à l'époque, je sentais qu'elle échappait à la malédiction de la conjugalité. Un couple qui n'en est pas un, comme dans Macbeth, l'enfant qui n'est pas né d'une femme. Ce genre de ruse constitue un bon moyen de se dérober à la pesanteur du destin et à l'amer sentiment d'inéluctabilité qui en découle. Mon grand-père avait une 204 Peugeot vert bouteille avec des sièges en sky beige à trou-trou. Peut-être suis-je en train de faire l'amalgame de deux véhicules, mais c'est ainsi que le souvenir remonte, accompagné de l'odeur, une merveilleuse odeur de plastique chaud et d'autres choses de plus indéfinissables, un parfum âcre et persistant, pointu et pas du tout écœurant. C'était un extrait du Remplaçant d'Agnès de Sarthe. C'était les lectures de Lisèle.